conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, nous continuons, bonjour, nous continuons la conversation sur la thématique de la transmission. Transmission du bien-faire en matière d'ingénierie, d'environnement, eau, ce sont des métiers d'avenir. Comme vous le savez, nous sommes tous tout à fait absorbés par ce qui se passe aujourd'hui et depuis quelques années déjà sur notre planète. Et donc, je reçois avec grand plaisir Florent Demange. Bonjour.
Bonjour, Myriam.
Alors, vous avez un métier d'avenir, malheureusement, 20 000 personnes mortes depuis 10 ans sur tout ce qui est problématique climatique. Alors, on ne va peut-être pas rester morose, mais vous pouvez déjà nous parler un petit peu de votre parcours. Hein.
Donc, je suis ingénieur de formation. J'ai été pendant 12 ans maître d'œuvre en aménagement urbain sur des opérations qui étaient essentiellement franciliennes. Donc, à la fois en tant que maître d'œuvre concepteur, mais aussi en tant qu'aménageur. Puisque entre les différentes expériences en maîtrise d'œuvre, j'ai été à la SEM 92 en tant que chef de projet technique. Voilà, l'activité professionnelle étant aussi couplée à une activité universitaire à l'université de Reims sur la partie en fait génie urbain et le montage des opérations d'aménagement dans leur globalité.
Ça veut dire que vous avez assez tôt compris qu'il fallait sensibiliser aussi, outre les aménageurs, les maîtres d'ouvrage privés comme les promoteurs à tout ce qui était ingénierie de l'environnement. Comment ont-ils compris? Comment avez-vous réussi à les convaincre hein?
Il y a un enjeu qui est assez simple pour un aménageur privé, c'est le financier.
Bien sûr.
Voilà. Donc c'est un des leviers qui est utilisé sur... l'intérêt d'appréhender l'environnement dans sa conception, dans la gestion des déblais, dans la gestion de l'eau. Voilà. Comment, à travers l'environnement, je peux faire gagner de l'argent à un aménageur ou à un promoteur?
D'accord, donc ce n'est pas nécessairement un cercle vertueux, c'est un cercle de raison par rapport au financement de tout ce qui est voirie.
C'est un des axes du développement durable, puisqu'on a une partie économie dans le développement durable.
Donc, les métiers de l'ingénierie en VRD sont souvent dénigrés. Un peu, on dit que c'est bon, voilà, c'est la cinquième roue du carrosse. Comment on fait donc pour faire en sorte que enfin les ingénieurs VRD et en environnement sont reconnus?
Alors, c'est vrai que c'est une politique une réflexion qui est assez globale sur le fait que les VRD c'est de la logique. C'est quelque chose que je défends, qui est effectivement une logique pure. Voilà, on ne réfléchit pas trop à comment poser une bordure ou autre. Par contre, la réflexion doit être menée plus sur la globalité et sur l'intelligence que je peux apporter ou qu'on peut apporter sur la conception. À savoir, si je prends en amont les différents sujets techniques, comment je peux améliorer le projet pour que techniquement et financièrement le projet tient la route et qu'après... une fois que le projet est conçu, comment j'arrive à réduire l'entretien derrière.
Voilà, donc. Alors, vous avez d'ailleurs gagné, je pense, avec LinkCity, réinventer Paris. Vous pouvez me parler un petit peu de ce projet?
Donc, effectivement, avec LinkCity, on a remporté donc, l'îlot fertile, Porte d'Aubervilliers. On a été en fait, appelé pendant la phase concours sur l'expertise en fait, VRD pour plusieurs sujets. Il y avait un sujet assez important sur l'assainissement, qui est un sujet assez lourd qui est porté par la ville de Paris, donc à la fois sur les eaux pluviales et sur les eaux usées, et notamment sur la partie en fait, durable de l'eau à travers des toitures terrasses, mais aussi une gestion à la parcelle des eaux, avec une spécificité propre à la ville de Paris sur une infiltration des eaux courantes et une régulation des eaux plus importante. LinkCity est venu nous chercher sur cette partie-là, sur cette conception pluviale et sur l'optimisation financière avec les terrassements. Comment arriver à construire un programme aussi complexe au cœur de Paris, enfin au cœur de Paris, du moins sur une des portes les plus saturées de Paris. Voilà, et à proximité d'une gare SNCF, d'une gare RER.
Avec une vraie complexité.
Oui.
Et ça veut dire que vous avez réussi à faire gagner 10%, 15% du coût de VRD? sans en faire quelque chose d'absolument terrible à mettre en forme ?
Effectivement, on est arrivé à faire gagner, le pourcentage je ne pourrais pas vous le dire, par contre on est arrivé en mettant un peu de logique à faire gagner de l'argent, à travaillant avec Brésillon sur la partie réutilisation des terres, puisqu'on a un site qui est en partie pollué, mais aussi avec un jeu de déblai-remblai, et avec OLM et TVK sur la partie en fait, intégration des eaux pluviales dans le projet. Voilà.
Alors, une petite boutade, mais puisque aujourd'hui on est dans une sensibilisation, je pense, réaliste par rapport à ce qui nous porte en termes de sensibilisation donc, environnementale, quelles sont pour vous les différentes approches et de quelle manière on peut vérifier les préconisations et les enjeux ? Parce que entre toutes les toitures végétalisées, les fermes urbaines, cette entrée en fanfare à Paris, en banlieue et en ville de province, bien évidemment, de l'agriculture urbaine. Comment fait-on pour se dire qu'on doit vérifier quand même à un moment donné combien ça a coûté et si ça a été vraiment efficace ?
Il y a une partie qui doit être faite au moment de la conception. On peut très bien comparer un coût d'un projet qui serait un projet classique, donc avec des canalisations, avec... une partie entièrement minérale, un bassin de rétention. Donc, on accumule en fait le prix du terrassement, le prix de la fourniture des matériaux. Ce prix-là, on vient le comparer à une solution où on n'aurait aucune canalisation, aucun ouvrage de rétention. Donc, ça, c'est la partie conception qui est quelque part assez facile à faire. On a la partie après au stade en fait du permis de construire sur lequel on peut très bien faire. En temps, par exemple, si moi j'interviens pour le compte d'un maître d'ouvrage public ou d'un aménageur, un visa sur le permis. Donc vérifier que les prescriptions locales soient prises en compte dans le projet. Ça peut être aussi l'application des règles d'un dossier loi sur l'eau dans le dossier. Et après, c'est du contrôle a posteriori. Voilà, c'est des choses que les...
Ça veut dire que vous mettez en place, pardon, un contrat de garantie sur 5 ans, sur 10 ans
Alors,
on en est là ?
Il peut y avoir effectivement des visas qui sont faits à l'instant du permis et des visas qui sont faits après travaux pour contrôle. Voilà. On n'est pas... Alors, personnellement, je n'ai pas mis de choses plus loin que la réception des travaux, mais effectivement, ça pourrait être envisagé. Après, se posera la question de qu'est-ce qui se passe en cas de revente d'un terrain ou autre. Mais effectivement, on peut avoir ce sujet-là. On l'a abordé avec une copro qui a récupéré un lotissement sur lequel, en fait, l'entreprise d'Espace Vert est arrivée et a remblayé toutes les noues, ne sachant pas le rôle des noues.
Et en fait, une entreprise d'Espace Vert ? Elle avait vraiment la qualification ?
Oui, c'était vraiment une entreprise d'Espace Vert. Et en fait, nous, on est intervenu pour le syndic pour remettre en œuvre, en fait, et remettre en place les ouvrages hydrauliques.
Ça veut dire de la même manière qu'on dit pollueur-payeur et celui qui est propriétaire d'un terrain pollué doit le dépolluer, on pourrait dire aussi qu'il y a le cercle vertueux de celui qui prouve 5 ans, 10 ans après qu'il a bien, infiltré les eaux à la parcelle et qu'il a fait, ce qu'il fallait.
Oui.
On pourrait mettre une labellisation ?
On pourrait, sachant que c'est quand même une obligation. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui obligé de gérer ses eaux à la parcelle. Si en plus on est sur une opération assez importante, on est soumis à un dossier loi sur l'eau. Et le dossier loi sur l'eau, les directives doivent être respectées. L'arrêté préfectoral ou autre doit être respecté. Et on peut avoir un contrôle des services de l'État avec, si un non-respect de la réglementation... une mise en demeure de remettre en état, allant jusqu'à des sanctions qui peuvent être des sanctions pénales.
Ah oui, donc là, ça commence à devenir très sérieux.
Ouais.
On va continuer à aborder un point extrêmement important, c'est votre futur métier. J'avoue, en vous invitant, que je ne savais pas que vous étiez en train de changer de casquette. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Parce que c'est ça aussi, la transmission.
Oui, ma dernière expérience professionnelle a été en fait la création d'un bureau d'études d'ingénierie. Bureau d'études que j'ai porté du coup pendant 5 ans sur essentiellement l'Île-de-France et la Normandie et que j'ai cédé, que j'ai vendu au mois de juillet dernier à une autre société. Et aujourd'hui, je m'oriente plus sur la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, donc le conseil auprès des maîtres d'ouvrage.
Sur quelle thématique hein ?
Alors, un peu toutes les thématiques, c'est-à-dire que c'est surtout sur le montage d'opérations, la complexité de projet et les stratégies à mettre en œuvre. Voilà. En délaissant un petit peu la partie pure VRD, puisque j'avais envie de voir un peu autre chose et élargir un peu les compétences.
Alors, j'ai cru comprendre que la thématique du commerce et principalement des zones commerciales périurbaines vous intéressait. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors effectivement, il y a aujourd'hui un sujet sur les centres commerciaux, puisqu'on avait par le passé des gros centres commerciaux qui étaient surtout des nappes de bitume. Assez impersonnel en fait, où tout le monde se déplace en voiture, on amène la voiture, on va de magasin à magasin presque en voiture. Voilà. Donc c'est quelque chose que quand on est parisien, on ne voit pas forcément. Par contre, dès qu'on va en province, on se rend compte que les gens peuvent passer une journée entière sur un centre commercial.
Voilà, donc, mais c'est un lieu de loisir, hein, presque.
Presque.
Ça, ça a été parfois conçu comme ça.
Oui. Mais voilà, je pense qu'il est intéressant de mettre de l'intelligence dans la conception et de retravailler ces centres qui doivent être intégrés entièrement dans la ville, avec une réflexion aussi qui doit être menée à l'échelle du centre urbain. Parce qu'on a des villes comme la ville de Rouen, par exemple, où on voit que les commerces quittent le centre-ville pour rejoindre les centres commerciaux. Et le développement de centres commerciaux en périphérie tente à faire mourir un peu les centres-villes.
Voilà, donc réflexion qui a été quand même mise en place depuis un certain temps. Est-ce à dire qu'il y a des préconisations ou en tout cas de nouvelles idées qui apparaissent ? Vous pouvez nous en donner une ou deux ?
Il peut y avoir des réflexions sur l'accès aux centres commerciaux, la modalité, l'offre aussi. Parce qu'on a quand même une offre aujourd'hui qui est assez dématérialisée. Beaucoup de commandes par internet, donc moins de déplacements dans les magasins. Donc on va se déplacer dans les centres commerciaux plutôt pour les gros achats. Donc voilà, une réflexion là-dessus. Et une intégration, je pense, de la nature dans les centres commerciaux, dans l'aménagement extérieur, voilà, qui pourrait... Alors effectivement, cet aspect qui pourrait être couplé avec un aspect économique aussi sur la réduction de l'investissement initial.
C'est-à-dire un centre commercial au milieu d'un parc, c'est ça ? Le centre commercial de demain ?
Ça peut être une idée, effectivement.
Bah écoutez, nous en parlerons peut-être dans un an, lorsque vous aurez commencé à intervenir d'une manière, j'irais, réaliste, vraie, avec vos partenaires. Mmh. Et puis, vous nous donnerez quelques exemples.
Parfait.
Rendez-vous merci à vous, Florent. Merci.
Merci, madame.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.